Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Mélanie a deux enfants, une fille et un garçon, la première née dans une maternité française, le second née dans une maternité suédoise. Il y a plus d'un an, avec son mari, ils ont décidé de s'installer en Suède. Et si au départ il s'agissait seulement d'une année sabbatique, le couple a vite pris goût à la vie scandinave et ne compte plus rentrer en France. Souvent citée comme modèle lorsque l'on parle de maternité, la Suède semble être la destination rêvée pour toutes les mères en mal de répartition des tâches, d'équilibre vie pro-vie perso, de postpartum accompagné ou tout simplement de temps pour une vie de famille. Et si la famille passait avant tout le reste ? Et si l'on vous proposait le package complet pour profiter pleinement de votre maternité ? Dans cet épisode, Mélanie nous raconte son enfance avec ses parents d'origine suédoise, ses grossesses qu'elle n'a pas aimées, ses premiers pas dans la maternité sans avoir le coup de foudre immédiat pour ses bébés, cet amour qui se construit petit à petit. Elle nous parle des réseaux sociaux, d'accouchement sans péridurale, du temps pour soi et en famille, des 480 jours de congé parental, de l'implication des pères et de plein d'autres sujets. Alors, attachez vos ceintures, nous partons pour un voyage au pays de la maternité valorisée. Bonne écoute. Bonjour Mélanie.
Salut Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Avec plaisir.
Alors, tu es la maman de deux enfants, quel âge ils ont ?
Alors, je suis la maman de Louise qui a 3 ans et bientôt 4 mois. Et je suis aussi la maman de Ernest qui va bientôt avoir 1 an dans moins de 2 semaines.
Et alors, toi, tu es issue d'une famille d'origine suédoise. Tu as grandi en France. C'est une des raisons aussi pour laquelle je voulais t'interviewer parce que tu vas nous raconter un petit peu tout ton parcours entre la France et la Suède. Suède qui est souvent un pays de référence pour nous en France. Alors déjà, toi, quel genre d'éducation tu as eu étant petite ?
Alors, moi, j'ai donc un papa qui est suédois et finnois et une maman qui est franco-suédoise. Et eux, en fait, donc, ils ont grandi principalement en Suède et ils sont venus s'installer en France quand ma mère était enceinte de moi. Ils sont arrivés avec, imprégnés de leur culture suédoise, donc forcément ils m'ont pas vraiment élevée comme les parents le faisaient à l'époque de la manière traditionnelle française. Je dirais que c'était plus une éducation. Alors, ce qu'on entend par suédoise, je sais pas si ça veut dire quelque chose en fait, mais c'est vrai que dans les années 90, en France. L'éducation traditionnelle, si je vais comparer avec mon mari, puisque c'est son éducation, je la connais bien, française traditionnelle de la campagne, plutôt des années 80.
Ouais.
Donc c'est quand même une éducation assez rigide, stricte. L'enfant avait pas vraiment la possibilité de répondre aux parents. Il fallait qu'il reste à sa place. Pas mal de violences physiques, de punitions, de châtiments corporels et ça. Tout ça, moi, j'ai pas connu. On a grandi avec la possibilité de participer aux discussions. Finalement, l'enfant avait une grande place dès le départ au sein de la famille. Et j'ai vraiment grandi avec ça, avec le fait qu'on m'écoutait, que mon opinion comptait. Et j'ai pas vraiment grandi avec des punitions ou des fessées, etc. Ça, j'ai pas connu, moi. Après, j'ai pas grandi sans cadre non plus.
Ouais.
Mais, enfin, je veux dire, je pouvais pas tout faire. Mais j'ai eu quand même, je pense, pas mal de liberté si je dois comparer avec mes amies françaises, quoi.
Tu le sentais déjà, ça, quand t'étais petite ?
Non, je le sentais pas. Non, c'est maintenant, avec du recul, quand je parle avec des amis de longue date ou quand je parle avec mon mari, ou ouais, c'est là que je me rends compte que c'était quand même bien différent. Mais quand j'étais enfant, j'étais tellement dans mon monde d'enfant. Et puis c'est vrai que quand j'allais chez mes amis, ben, en général, les parents étaient sympas. Enfin,
oui,
ils étaient pas en train de crier sur les enfants. Enfin, c'est des choses, je trouve, comme qu'on fait pas trop en public, quoi. Donc j'avais pas une idée de ce qui pouvait vraiment se passer chez les autres.
Et alors, toi, avant de devenir maman, quel regard tu portais sur la maternité ? Est-ce que tu as toujours voulu devenir mère ? Est-ce que c'était quelque chose d'assez ancré ou c'est venu plutôt sur le tard ?
Alors, ouais, s'il y a bien un truc que j'ai toujours voulu être, ou alors aussi loin que je me souvienne, c'est devenir mère. En fait, il y a deux choses. Devenir mère et devenir maîtresse. Je me souviens l'avoir dit très tôt, toute petite, dès que j'ai commencé l'école. Et ce désir aussi d'être mère, c'est un désir très fort que j'ai eu en moi depuis... Je ne saurais même pas dire quand et comment ça a commencé, mais c'était sûr, c'était qu'un jour... Enfin, il y avait une chose qui était sûre, c'était qu'un jour j'allais devenir mère. Après, il fallait trouver la bonne personne, et puis être vraiment prête. Mais je savais que c'était quelque chose que je voulais. C'était vraiment un désir très profond. Et je suis encore en train de beaucoup me questionner sur comment on fait pour savoir que ça y est, on a les enfants qu'on voulait. Voilà, on a deux enfants et je suis en questionnement permanent. Mais est-ce qu'on va en avoir un troisième, un quatrième? Comment on va s'arrêter? Pourquoi on va s'arrêter? Je suis un peu obsédée par cette question en ce moment.
Ouais.
C'est vraiment un désir très fort. Je pense que s'il n'y avait pas les conditions, enfin les limites matérielles et puis aussi les limites physiques, parce qu'au bout d'un moment, on n'est quand même que deux parents pour les enfants, je pourrais avoir un nombre... je pourrais avoir 6 enfants, je pense. Non, honnêtement. Mais qu'après, voilà, quand je suis très fatiguée, je tiens pas tout à fait le même discours, mais oui, c'est un désir très fort. Moi, c'est très profond. J'aime les enfants. J'ai toujours voulu être mère, et puis je vois pas vraiment de limite à cette maternité. Je sais qu'un jour, il faudra que je fasse le deuil, et je pense que ce deuil-là, il sera très difficile.
Et alors, si on parle du début, à quel moment, avec ton chéri, vous vous êtes dit que c'était le moment de devenir parent? Vous étiez prêt?
Alors, ça va faire 7 ans. On est ensemble avec mon mari. Ouais, c'est arrivé quand même assez vite. On voulait se marier d'abord. Donc ça, c'était... Moi, je rêvais d'un grand beau mariage, donc ça a pris beaucoup de temps d'organisation. Et comme j'étais à fond avec ça, je pensais pas forcément aux enfants. Mais très rapidement après, on a voulu concrétiser ce projet d'en avoir... Enfin, lui vient d'une grande famille, ils sont 6. Et il a toujours voulu avoir des enfants aussi, donc on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et du coup, on n'a pas vraiment eu de... Enfin, il n'y a pas un qui a dû convaincre l'autre. On était sûr qu'on en voulait quand même assez rapidement. Donc ça faisait à peu près 4 ans qu'on était ensemble. Donc c'était pas mal, on avait eu le temps de voyager, on avait envie de faire quelque chose... Enfin, on avait envie de vivre un peu une vie de couple d'abord, quoi. Donc avoir le temps de voyager, de passer du temps aussi juste à deux, pouvoir sortir le soir. Je pense qu'on avait conscience tous les deux que ça serait beaucoup moins possible après. Donc on avait besoin quand même d'avoir cette page de notre vie où on n'était que tous les deux et il n'y avait pas d'enfant, tout en parlant quand même assez régulièrement. Et puis quand on s'est senti prêt, on a lancé les essais bébés.
Ouais. C'est arrivé vite ou pas?
Non, ça a pris 1 an à peu près, je crois. Ouais, c'est ça, ça a pris 1 an. J'ai quand même besoin de voir une gynécologue. J'avais des petits problèmes pour tomber enceinte. J'ai eu des gros problèmes, enfin plus gros problèmes après pour un S. J'ai vraiment eu besoin d'un plus gros coup de pouce. Je sais plus exactement ce que j'ai. Faudrait un jour que je me penche pour comprendre vraiment quel est mon problème. Enfin, j'ai des cycles anarchiques. J'ai jamais connu hein, cette joie des femmes d'avoir des cycles de 28 jours qui savaient exactement quand elles ovulent. Moi, parfois, j'ovule pas. Parfois, ça dure 60 jours. Les ovulations sont de très mauvaise qualité. Enfin, j'ai eu de la chance vraiment pour lui que ce soit si rapide. Finalement, par rapport aux problèmes que j'avais, c'était très rapide. à peu près un an, un peu moins d'un an, quoi.
Ouais. T'as pas eu peur, toi, pendant cette période, cette attente, comment tu te sentais?
Ouais, je me sentais vraiment pas bien parce que j'avais un fort pressentiment que j'allais avoir des problèmes. Je me suis mis en tête que ça marcherait pas naturellement. Je sais pas pourquoi. Et du coup, mois après mois, j'étais de plus en plus stressée. Et puis, on entend souvent, mais faut pas stresser, sinon ça va jamais fonctionner. Et puis, j'ai pris un premier traitement sur un mois. Et puis, je suis tombée enceinte ce mois-là.
T'as pris quoi comme traitement? C'était un booster?
C'était du Duphaston, donc ça régularisait mon cycle.
D'accord.
Pour avoir une ovulation vraiment en milieu de cycle, quoi, autour du 14e jour, et pour avoir les règles au bout de 28 jours. Ah, sinon, c'était quasiment impossible de savoir. C'est vraiment trop, trop anarchique. Et du coup, ça a fonctionné du premier coup, et j'en souviens parce que c'était Noël. J'ai fait mon pipi sur le test positif, c'était Noël. Donc c'était assez fou de vivre ça. On avait loué une maison sous la neige avec ma famille, donc de mon côté. Et on a annoncé ça 2 jours après, alors que ben, c'est super tôt, quoi. Mais on l'a annoncé à mon père pour son anniversaire, il est né le 27. Et ouais, je suis enceinte, on vient de l'apprendre.
D'accord.
Donc c'est un très beau souvenir.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse?
La première grossesse, c'était une première grossesse, donc on n'y connaît pas grand-chose. C'était assez stressant, en tout cas les premières semaines, avant d'être sûre que voilà, ça allait vraiment tenir, ça allait être une grossesse que je mènerais à terme. J'étais très, très stressée, quoi. Je me souviens, j'étais vraiment pas bien. Et puis, je trouve que... le gynécologue que j'avais était pas forcément très rassurant non plus. Je sais pas comment dire. C'était très froid et médical. À ce moment-là, je savais pas qu'on pouvait être suivi par une sage-femme. Voilà, on pouvait avoir un suivi beaucoup plus chaleureux, etc. Je l'ai découvert vraiment au cours de la grossesse. Je l'ai découvert vers la fin quand j'ai commencé à être suivie par la maternité où j'allais accoucher. Donc, j'ai accouché au Bluet.
Ouais.
Qui est une maternité assez connue
à Paris,
en Île-de-France, ouais. Puisqu'elle propose un accouchement dit physiologique. A priori, les sages-femmes ont tout ce qu'il faut pour soutenir un projet où on souhaite pas avoir la péridurale, etc. Mais bon, c'était une première grossesse, donc moi j'avais des idées, mais je savais pas vraiment ce que j'allais vivre et comment ça allait se passer. J'ai été très très malade les 4 premiers mois, j'ai énormément vomi, enfin c'était affreux. Et puis j'ai été fatiguée le reste de la grossesse, j'ai fait une anémie en fer qu'on a eu beaucoup de mal à réguler. Donc j'ai pas aimé être enceinte en fait. De toute façon, j'ai pas aimé être enceinte pour Ernest non plus. C'est très particulier pour moi la grossesse. Autant je te disais tout à l'heure, j'ai toujours voulu être mère et j'aime avoir des enfants. Je pense qu'il y a un autre truc qui me freine, c'est pour avoir 15 enfants. c'est la grossesse parce que je suis très malade et que enfin c'est épuisant pour moi quoi. J'ai jamais connu ou ressenti cet épanouissement que certaines femmes disent ressentir quand elles sont enceintes. J'ai attendu, je me souviens, la première grossesse, on me disait, non mais tu vas voir, ça vient au deuxième trimestre, non mais tu vas voir, ça vient après, à la fin. Et c'est jamais arrivé, quoi. J'aimais pas ça. J'avais du mal à me dire que c'était vraiment un bébé que j'avais en moi. Enfin, j'arrivais pas à rendre le truc vraiment réel. C'était trop irréel pour moi. C'était, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que truc que j'ai dans mon ventre? Pourquoi je partage mon corps avec un autre être? Et c'était trop bizarre. C'est vraiment difficile à expliquer ce ressenti. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de femmes qui le ressentent, ou alors c'est tabou, je sais pas. Mais c'était vraiment pas agréable pour moi d'être enceinte. Et pourtant, on a fait de l'aptonomie en essayant de sentir le bébé. Ça m'a quand même aidée de sentir que voilà, elle bougeait. C'était des petits moments agréables, mais par rapport à la longueur de ces 9 mois de grossesse, ouais, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime, quoi.
Et est-ce que tu avais un projet particulier? Toi, tu parlais d'accoucher sans péridurale. C'était ton souhait, toi, à ce moment-là?
Oui. Alors, pour Louise, j'avais envie d'accoucher sans péridurale, mais c'était surtout à cause de l'expérience de ma mère, je pense, après coup, plus que pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, donc ma mère, elle a eu 2 enfants, moi et ensuite ma sœur. Et donc pour moi, elle a accouché avec péridurale. Elle a l'impression de rien contrôler. Ça s'est mal passé, forceps, ventouse, allongée sur le dos. Elle en garde un très mauvais souvenir où elle a rien senti. Elle n'était pas actrice de son accouchement. En plus, à l'époque, la péridurale, c'était des doses de cheval. Enfin, on contrôlait rien. Et du coup...
Elle avait accouché en France ?
Ouais, les deux, elle a accouché en France pour les deux.
D'accord.
Du coup, elle a eu une tellement mauvaise expérience que pour ma sœur, elle s'est dit « Non, mais là, j'y vais, je prends rien. Je vais accoucher naturellement. » Et puis, elle a eu ma sœur et elle a dit que c'était mille fois mieux sans péridurale, qu'elle avait tout ressenti, mais que c'était tellement mieux que ne rien ressentir du tout. Et du coup, j'avais cet exemple fort en tête. C'est l'expérience de sa maman, je pense que ça compte pour beaucoup de personnes. Mmh. C'est une influence.
Oui.
Et du coup, je me suis dit, ouais, il faut que j'essaie de le faire sans péridurale. Mais j'avais aucune idée de l'intensité de la douleur. J'ai fait une préparation classique à l'accouchement. J'ai pas vraiment... Si, j'ai fait de l'aptonomie, mais ça prépare pas, je trouve, à l'accouchement.
Oui, c'est plus une connexion avec son bébé qu'une préparation à l'accouchement en soi.
Non, non. Alors, soi-disant, oui, on a fait une préparation plus ou moins à l'accouchement. Mais je pense qu'elle est dans le faux, cette sage-femme qui nous suivait pour ça, parce qu'elle nous disait de ne pas se concentrer sur la respiration, qu'il fallait s'ancrer dans le sol, penser à tous les éléments de la pièce. Et j'ai essayé de faire ça, ça a marché 5 minutes. Alors, j'ai envoyé valser tout son truc d'aptonomie, quoi. J'avais besoin de me concentrer sur la respiration. Sauf que comme je m'étais pas préparée à ça, très très vite la douleur m'a submergée, quoi. Et puis ça s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. C'est-à-dire que moi j'ai accouché une nuit où on était 9 femmes et elles étaient 2 sages-femmes. Donc moi j'avais même pas une vraie chambre. J'étais dans la salle des urgences et j'ai fait tout mon pré-travail dans cette salle-là où en fait il y a rien. Il y a une table, mais c'est une table d'urgence. Enfin, c'est pas une salle pour accoucher, quoi. Donc, j'ai un peu déchanté. Il y avait mon mari et moi, on était assez seuls, quoi. J'ai eu cette chance que j'ai accouché très, très vite. Pour un premier accouchement, j'ai accouché en 3 heures, je crois, 4 heures.
Ah oui.
Ouais, c'était très rapide. Mais après coup, je me dis, mais heureusement que j'ai accouché si vite parce que sinon, mais en fait, la sage-femme, elle est venue 2 fois. Elle est venue une fois pour me proposer le bain que j'ai accepté et puis une deuxième fois pour les pousser à la fin, en fait.
Ah oui.
Donc, j'ai pris la péridurale, mais à la toute fin. Donc, j'ai fait quasiment tout le travail et j'avais tellement mal, j'ai complètement perdu pied, j'ai cru que j'allais mourir. Enfin, c'était. Je pense que c'est parce qu'on n'était pas accompagnés, en fait. J'avais pas de sage-femme pour être là avec moi, pour me dire, mais non, mais c'est normal ce que tu ressens. Elle était occupée avec des cas plus urgents que moi. Elle courait dans tous les sens, je me souviens de ça. Elle passait 1 minute voir, madame, ça va ? Oui, oui, si elle voyait que ça allait, ben, elle repartait dans d'autres pièces.
Ouais.
Et il y a eu un moment donné où la douleur m'a vraiment submergée. J'ai cru que j'allais mourir, je me souviens de l'avoir dit et d'avoir supplié pour avoir la péridurale.
Ah oui, d'accord.
Et l'anesthésiste n'était pas dispo. Et donc, elle est arrivée quand finalement... elle est arrivée 10 minutes avant que Louise naisse, en fait. J'ai tellement hurlé, je pense que je devais être hystérique, qu'elle m'a quand même posé la péridurale.
Ouais.
Donc elle a servi dans le sens où à la toute fin vraiment, en tout cas pour le placenta, j'ai pas senti grand chose et c'est possible aussi que j'ai pas vraiment senti le grand couronnement quand la tête est passée. Enfin, je pense que ça commençait à faire effet.
Ouais.
Parce qu'en comparaison de ce que j'ai ressenti pour Ernest où j'ai rien pris du tout, il me semble que c'était quand même plus soft. Donc finalement, j'ai pas eu la péridurale parce que l'anesthésiste n'était pas dispo. Parce qu'il y avait personne, en fait, qui était là pour moi à ce moment-là, quoi. Mais peut-être que si la sage-femme avait été là, peut-être que je l'aurais pas pris non plus. Enfin, c'est difficile de savoir après coup. Ce qui est sûr, c'est que mes 2 accouchements ont été radicalement différents dans le sens où pour Louise, j'ai été très très seule. Et pour Ernest, j'ai été accompagnée du début jusqu'à la fin. Mais après, c'était un accouchement très rapide pour Ernest aussi, donc forcément.
On va en parler. Et du coup, alors ta rencontre avec ta petite Louise, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman ?
Alors, les premiers instants, j'ai été sous le choc. En fait, je me souviens de la sage-femme qui me dit « Elle est là, attrapez votre bébé !» Et moi, je suis là « Quoi ? Quoi, il y a un bébé ?» et je l'attrape et c'est fou parce que c'est qu'à ce moment-là, finalement, que j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un bébé dans mon ventre. Ouais. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, c'était tellement difficile pour moi de rendre cette grossesse concrète. c'est comme si j'étais un peu dans mon délire, genre tu t'es folle Mélanie, il y a rien dans ton ventre, c'est quoi, est-ce que c'est ce qui bouge? Et puis d'un seul coup, elle était là avec cette odeur si particulière de nouveau-né. Elle a pas crié, elle a juste fait ah comme ça, et je l'ai prise contre moi et j'étais sous le choc en fait, je pleurais même pas, j'étais mais c'est mon bébé, je pense que j'ai dû le répéter en boucle, mais j'ai eu un bébé, j'ai un bébé, c'est mon bébé, c'est Louise. on savait déjà qu'on allait l'appeler comme ça, et c'était vraiment un moment de grand choc quoi. Et c'était mon mari à côté qui était en train de pleurer, quoi, qui était super ému, genre, oui, on l'a fait, tu l'as fait. Et il m'a fallu du temps pour atterrir, pour comprendre que c'était ma fille qui était là. Et j'ai pas eu le coup de foudre au premier regard. Je l'ai beaucoup examinée en me disant, purée, c'est vraiment mon bébé. Et je dirais que le lien s'est construit petit à petit. Dans les premières semaines, les premiers mois, et j'ai senti l'amour vraiment grandir, quoi. Comme s'il était tout petit au début. Et j'ai eu besoin d'apprendre à la connaître pour sentir cet amour grandir.
Comment tu l'as vécu, ça, de pas avoir ce fameux coup de foudre dont tout le monde parle?
Ah ben, je l'ai dit à personne. Parce que je voyais bien que c'était quelque chose qui était difficilement accepté. Ça, je le savais déjà. Je pense que c'est un truc que, en fait, la plupart des femmes, elles s'attendent à ça. C'est quelque chose que tout le monde dit. Oh là là, c'est l'amour au premier regard. Mais je pouvais pas en parler, en fait. Je pense qu'il y a même très peu de gens qui le savent encore aujourd'hui, que ça a pris du temps pour moi. Parce qu'il y a quand même une sorte de gêne autour de ça. Enfin, que l'amour, c'est pas forcément immédiat, alors que je pense que c'est assez logique, en fait. C'est quand même si on a porté ce bébé pendant 9 mois, c'est une personne qu'on connaît pas. Et il faut le temps de construire cette relation. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu besoin de tisser une relation avec ma fille, apprendre à la connaître et l'amour est devenu vraiment de plus en plus intense.
Du coup, tu l'as pas mal vécu, t'as réussi à te dire que c'était normal.
Je l'ai pas mal vécu. Ce que j'ai mal vécu, c'est la phobie d'impulsion postpartum, ouais, dont j'avais jamais entendu parler. Et je dirais le premier mois, j'ai eu plein de visions de moi qui faisaient des choses horribles. C'est-à-dire, j'avais l'impression que... Enfin, je me voyais jeter Louise par la fenêtre. On est au troisième étage. Je la voyais la mettre dans la machine à laver et mettre la machine à laver en route. Et je comprenais pas pourquoi j'avais ce genre de pensée. C'est ce sentiment de toute puissance, de vie ou de mort sur l'enfant, quoi. Et puis, j'ai fait des petites recherches et j'ai, pareil, je pouvais en parler à personne, hein. Je me suis dit, mais attends, mais t'es complètement barge, la Mélanie, qu'est-ce que tu ressens? Enfin, c'est incroyable. T'as toujours voulu cet enfant, t'as toujours voulu être mère. Comment tu peux avoir ce genre de pensée? C'est pas possible. Et puis j'ai trouvé, en fait, ça se trouve quand même assez facilement sur Internet quand on cherche ces réactions-là. Et en fait, il y avait un article qui était paru très peu de temps avant la naissance de Louise. Je me souviens plus dans quel journal, mais un journal assez connu qui traite pas forcément de la maternité. Mais ils avaient fait une étude là-dessus ou une recherche. Et du coup, j'avais lu tout l'article, ça m'avait fait énormément de bien. Je m'étais rendu compte qu'en fait, c'était bien plus normal que je le pensais. Enfin, c'était même assez fréquent. Et du coup, j'ai osé en parler avec mon mari. Il a été très compréhensif, même si lui, il a pas ressenti, il a été très, très compréhensif. Et je pense qu'on l'a gardé pour nous. J'en ai parlé sur Instagram longtemps après. Quand c'était fini, depuis un bon bout de temps, j'ai gardé ça pas mal de temps pour moi, en étant quand même un peu, pas honteuse, mais enfin, c'est le genre de truc qu'on n'a pas envie de ressentir, quoi. C'est difficile d'en parler. Et quand j'en ai parlé sur Instagram, il y a plein de mamans et même des amis qui sont venus me parler, des amis dans la vraie vie, qui sont venus me dire, purée, mais moi aussi j'ai ressenti ça, j'aurais aimé savoir avant. Ça, c'était plus difficile. Mais je trouve que toutes ces questions-là autour de aimer, ne pas aimer être enceinte, avoir le coup de foudre ou pas, la phobie d'impulsion, je trouve que la parole des femmes se libère vraiment à ce sujet ces dernières années.
Oui, on en parle de plus en plus.
Ça fait du bien.
Et alors, est-ce que tu avais réfléchi à une éducation particulière pour ce premier enfant, justement en rapport avec ta double culture?
Alors, vraiment pendant la grossesse, avant la grossesse, ça paraît peut-être un peu étonnant, mais je m'étais pas vraiment renseignée plus que ça. Mais j'étais pas tout à fait sûre de moi. Il faut savoir qu'en fait, j'ai beau avoir été élevée par des parents qui m'ont donné une éducation, on va dire, du style scandinave, nordique. J'étais pas 100% convaincue que c'était la meilleure des éducations possibles. Je suis passée par une phase où, autour de l'adolescence, enfin, le début de l'âge adulte, autour de 18 ans peut-être, où j'ai beaucoup remis en question l'éducation que j'avais reçue, j'ai commencé à prendre du recul, réaliser que les autres étaient pas forcément élevés de cette manière-là. Je me suis demandé si c'était pas mieux quand même d'être plus stricte, plus sévère. J'étais plus si sûre de quelle était la meilleure éducation. Je saurais pas expliquer pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais un peu un alien par rapport aux autres. Et je me disais, mais les autres enfants, ils ont l'air d'être bien élevés, polis, ça fait des adultes qui ont l'air d'être bien. Pourquoi leur éducation serait pas tout aussi bien, voire mieux que celle que j'ai reçue? J'ai laissé un peu ça de côté et ça a tout un peu ressurgi quand j'étais enceinte et que j'ai commencé à vouloir vraiment me renseigner, lire des livres, essayer de comprendre un peu plus, voilà, pourquoi est-ce qu'on élève son enfant de cette manière ou d'une autre. Et là, je me suis à nouveau plus rapprochée de ce que j'avais reçu de mes parents, comment mes parents m'avaient élevée, en allant même peut-être un peu plus loin, quoi. C'est-à-dire que mes parents, ils m'ont quand même donné... Enfin, il y avait quand même un cadre, il y avait quand même des règles. Je pouvais pas faire ce que je voulais. Enfin, par exemple, je pouvais pas me lever en plein milieu de la nuit pour aller manger ce que j'avais envie de manger dans le frigo. Enfin, c'était pas non plus une éducation laxiste, quoi. Mais je pense que quand j'ai commencé à lire et à m'intéresser sur le sujet, bah, j'ai lu, en fait, Pour une enfance heureuse de Catherine Guéhenne, que je pense que plein de gens ont lu. Et ça a quand même fait l'effet un peu d'une bombe sur moi.
Pour quelle raison?
Où je me suis dit...
Qu'est-ce qu'elle disait dans ce livre qui t'a...
C'est fou, parce que ça fait des années, maintenant, je ne l'ai pas relu. Il faudrait peut-être que je le relise. Je ne sais pas si je le revivrai de la même manière maintenant, mais en fait, je l'ai vécu comme une bombe par rapport au fait que j'étais enseignante et que je me suis trouvée très violente avec les enfants, en fait, quand je lisais ce qu'elle disait dans le livre. Je me rendais compte que c'était très difficile d'être une enseignante bienveillante, en fait. Et c'est ça qui a été difficile.
Oui, donc tu l'as plus transposé à ton métier que t'as...
À ce moment-là, oui. Mais ça m'a beaucoup fait réfléchir sur l'éducation que je voudrais donner à mes enfants, quoi. En me disant, purée, j'ai envie d'essayer d'être bienveillante envers mes enfants. Et j'ai aussi envie, de réussir à être bienveillante en tant qu'enseignante. Et c'est difficile. Et d'autant... Enfin, j'ai du coup encore plus envie de réussir à être bienveillante avec mes enfants, quoi. Parce que je me suis dit, mais en tant que prof... Par des gestes, par des mots, je pense que j'ai fait du mal à des enfants sans le vouloir, en fait. C'est pas intentionnel, mais on est obligé d'amener un cadre strict quand on a 30 enfants dont on doit s'occuper, quoi. Et du coup, par la force des choses, j'étais devenue quelqu'un d'assez strict. Et je me suis dit, purée, il faut que j'arrive à me défaire de ça quand j'aurai des enfants. J'ai pas envie d'être comme ça avec mes enfants. Et j'ai pas envie d'être comme ça tout court, en fait. Et... Quand Louise est née, je sais pas si c'est les livres que j'ai lus ou quoi, c'est assez naturel en fait. J'ai suivi mon feeling et comment j'avais envie de faire les choses au plus profond de moi. Et ça s'est rapproché de ce qu'on peut appeler la parentalité bienveillante ou la parentalité positive, respectueuse. Enfin, ça a plein de noms. Mais c'était à ma sauce. J'ai jamais vraiment suivi des livres à la lettre, quoi. J'ai pas lu tous les Filiosa que tout le monde a lu, par exemple. J'en ai lu un. J'ai surtout fait à ma façon, qui s'est révélé être très proche de ce qu'on appelle la parentalité bienveillante.
Et du coup, c'est ce qui se rapproche le plus de l'éducation scandinave, ou c'est encore autre chose?
C'est l'éducation. Je dirais que parce que maintenant, ça y est, ça fait quelques mois que je travaille donc dans une maternelle. Mais moi, je me suis vraiment rendu compte après coup, enfin, je sais pas comment te dire. C'est en fait en rejoignant les réseaux sociaux que j'ai réalisé que ma façon de faire était tout un courant Tu vois ce que je veux dire? J'avais lu Catherine Guéhenne, oui. Mais c'était à la base même pas forcément par rapport à la parentalité que je l'avais lu le livre.
Ouais.
Et après, j'ai réalisé, mais ouais, ça a un nom et j'ai adhéré à ce courant-là sans réaliser au début à quel point ça pouvait vite être extrême. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Enfin, moi, j'ai jamais trouvé que c'était extrême, la parentalité bienveillante. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas lu tous ces bouquins. Ou parce que j'ai toujours fait à ma sauce, en fait. C'est-à-dire, j'ai pensé adhérer à un courant, mais en fait, il y avait des choses dans lesquelles je me retrouvais. Et le reste, j'y adhérais pas parce qu'en fait, c'est comme si j'avais rejoint... C'est très difficile à expliquer. Je sais pas comment expliquer ça. Mais en fait, moi, j'ai toujours fait comme je le sentais. Et il s'est avéré que, voilà, ça ressemblait beaucoup à la parentalité bienveillante, etc. Mais sans cocher une liste... Voilà, par exemple, le cododo. J'avais pas lu des choses sur le cododo. Est-ce qu'il faut faire le cododo? Est-ce qu'il faut pas le faire cododo? Moi, j'ai entendu le pédiatre qui nous a dit qu'il faut pas faire le cododo.
Tu t'es écouté, en fait.
Mais c'était plus fort que moi. C'est-à-dire, en m'écoutant, il était impossible pour moi de poser ce bébé dans le lit, ailleurs. J'avais besoin de Louise à côté de moi. Pareil pour le portage. Et je sentais que j'avais besoin, en fait, les premiers mois, d'avoir ce bébé contre moi tout le temps. Donc, en fait, elle a fait toutes ses siestes sur moi. Elle a dormi dans le même lit que nous parce que c'était un besoin. Et c'était... D'ailleurs, mon mari a ressenti la même chose. On ne parle pas trop des hommes, comment eux peuvent le vivre, mais lui, pareil, on était collés, en fait, tous les trois. Les premiers mois, on avait besoin de ça. Et on était vraiment sur la même longueur d'onde. L'allaitement, ben, c'est peut-être plus lié à la culture suédoise. C'est vrai qu'en Suède, beaucoup, beaucoup de femmes allaitent. Toutes les femmes autour de moi avaient allaité. Très naturellement, j'ai voulu allaiter aussi. J'ai eu de la chance de connaître peu de difficultés. Et du coup, ça a plus ou moins roulé, quoi.
Ouais. T'as allaité combien de temps?
22 mois, Louise. Et là, je dirais peut-être que j'ai allaité 22 mois plus parce que je me suis laissée un peu happée par ce côté c'est bien d'aller jusqu'au sevrage naturel, c'est mieux pour l'enfant, etc. Plus parce que je m'écoutais, moi. Sur la fin, j'étais enceinte, j'avais des douleurs terribles quand j'allaitais, et il a fallu que mon mari me dise stop là, stop, arrête, tu peux pas continuer, tu t'écoutes plus, tu écoutes que Louise là. Et ça m'a fait un peu l'effet d'une claque quand même, où je me suis dit purée, faut peut-être que je prenne un peu de recul sur ce que je lis sur les réseaux.
Ah oui.
Et que je fasse pas attention à ce que les gens vont dire de moi, mais vraiment, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire là? Est-ce que j'ai envie de continuer ou pas? Et j'ai arrêté. Et ça s'est très bien passé d'arrêter. Et on a tourné cette page-là d'une superbe façon, quoi. Elle n'a pas souffert. On a juste tourné la page, quoi.
J'ai senti cette pression qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, que ce soit du côté bienveillant, parentalité positive.
Par rapport à l'allaitement, oui. Pour d'autres choses, pas spécialement, parce que je pense que c'est quand même moins sur Instagram. Je pense que c'est beaucoup sur les groupes Facebook. Et j'ai tenté les groupes Facebook, mais au bout d'une semaine, j'ai pas pu, d'ailleurs, quel que soit le sujet. En fait, on a tendance à dire que c'est autour de la parentalité qu'on devient extrême sur les groupes Facebook. Mais non, c'est tous les sujets, quoi. C'est parce qu'on est derrière un écran, il y a moins de filtres, c'est toujours extrême. Moi, je trouve que c'est pas un sujet... c'est pas lié à la parentalité uniquement. C'est tous les sujets sur les réseaux sociaux. C'est difficile d'avoir de la nuance. On n'a pas du tout de la nuance comme quand on se parle en vrai, en face, où on tient vraiment compte de l'autre dans son entièreté, parce qu'on l'écoute vraiment, on essaie de savoir qui est cette personne. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on crache ce qu'on pense être vrai et on a tendance à asséner des choses très vite, alors que c'est pas forcément une vérité pour tous, quoi. Et malheureusement, oui, ça, quand c'est au sujet de la parentalité, je pense que ça peut faire plus de mal peut-être que certains sujets, puisque ça touche à la mère qui, elle, est vulnérable. Puisque, ben, surtout quand c'est un premier enfant, là, tout à découvrir, il y a la fatigue qui s'accumule, la charge mentale qui explose pour beaucoup de femmes. Et du coup, ouais, ça peut être plus un piège qu'autre chose, ces groupes-là, hein, Facebook. Mais encore une fois, moi, c'est pas quelque chose que j'ai connu. Donc, les réseaux sociaux, pour moi, ça a été une bouée de sauvetage, en fait. Instagram, créer ce compte, me rendre compte qu'il y avait d'autres mamans qui élevaient leurs enfants comme moi ou presque comme moi, de voir que quand le pédiatre me disait c'est pas bien le cododo, mais en fait il y avait plein de mamans qui faisaient du cododo, j'en connaissais pas moi parmi mes amis, mais de voir ça sur Oui.
Instagram, ça me fait un bien fou, quoi. J'ai trouvé des mamans qui étaient comme moi, qui allaitaient comme moi, qui avaient une vision similaire de la parentalité et qui ont évolué et cheminé avec moi aussi. Certaines qui sont devenues de vraies amies. Ça a des côtés formidables aussi, quoi, les réseaux sociaux. En tout cas pour moi.
Donc, 2 ans plus tard, tu décides de faire un deuxième enfant. Comment est venue cette décision? Bon, tu disais, de toute façon, toi, tu avais envie d'avoir plein d'enfants.
Alors, je pense que si on n'avait pas galéré autant pour avoir Ernest, il y aurait eu moins d'écart d'âge entre eux. Mais finalement, c'est pas si mal, je trouve, qu'il y ait eu 2 ans, parce que plus tôt, je pense que ça aurait été très dur à vivre pour Louise. Donc finalement, c'était pas si mal. C'est vrai que pour Ernest, on a pas mal galéré et que j'ai eu besoin de plus d'aide. En fait, j'ai pris un traitement plus lourd, j'ai pris un autre médicament qui s'appelle Clomid. Donc j'ai ovulé artificiellement, puis après j'ai eu un suivi par échographie pendant plusieurs jours pour vérifier voilà quand est-ce qu'elle a eu exactement l'ovulation. Enfin c'est plus du tout glamour, genre comme on s'imagine qu'on va faire l'amour tout rapidement et qu'on va avoir un bébé. Non, c'était vraiment genre oui, alors il faudrait avoir un rapport tel jour, tel jour, tel jour. Et j'ai eu de la chance que ça prenne là avec ce traitement-là aussi du premier coup. Mais bon, on avait déjà essayé pas mal de fois juste avec le Dufaston que j'avais pris pour Louise. Et là, ça fonctionnait plus, quoi.
Et donc cette grossesse chaotique un petit peu aussi comme la première, tu disais que c'était pas trop ton truc.
Non, alors non. Donc au début, j'allaitais Louise, alors que je vomissais toute la journée. J'ai encore plus vomi pour Ernest que pour Louise. Donc, c'était vraiment du matin au soir. J'étais vraiment l'ombre de moi-même hein, les premiers mois, au point où j'ai quasiment regretté d'être enceinte, quoi. Je me souviens de m'avoir dit, mais pourquoi on a fait ça? C'est pas possible. Enfin, c'est trop dur. Je veux plus jamais d'enfants. Tu parles, on est en train de parler d'un troisième enfant. j'ai une sorte de lunatisme. Enfin, on oublie, je crois, les trucs négatifs. Mais c'est bien d'en reparler. Mais c'était très dur, quoi, cette grossesse. Et pareil, j'ai aussi fait une anémie. Et j'ai encore plus galéré pour être de nouveau en forme. Enfin, c'était vraiment compliqué, quoi. Et puis, j'avais Louise à gérer, donc c'était pas facile. Dans cette période-là, il y a eu le Covid, le premier confinement. Donc, c'est venu ajouter plein de galères. Donc, c'est-à-dire que j'étais enceinte, c'était le premier confinement, donc qui a été quand même très dur, hein, je pense que tout le monde s'en souvient. Donc, je vomissais toute la journée, j'avais Louise à la maison parce qu'on n'avait plus de mode de garde. On allait aller un petit peu à la garderie, mais bon, on n'a plus de place puisque c'était que pour le personnel médical. Jonathan s'est retrouvé en télétravail dans la cuisine et il fallait que j'empêche Louise, donc qui avait quasiment 2 ans, d'aller le déranger et comprenait pas pourquoi son père était à la maison.
Ouais.
Le combo de l'horreur. Ouais. C'était vraiment très très dur, quoi. Et à ce moment-là, pour couronner le tout, Jonathan a des problèmes à son travail et sent qu'il faut qu'il arrête ce travail.
Ah oui.
Ouais. Nous, on cherchait en même temps à quitter Paris, on n'avait que des refus. Et donc là, émerge cette idée de pourquoi pas aller en Suède, quoi.
Alors, comment elle est venue, cette idée? Qu'est-ce que vous êtes dit?
Alors, c'est mon chéri qui m'en a parlé la première fois.
D'accord.
Il me dit, mais pourquoi on tenterait pas la Suède, quoi? Et je dis, ah, t'es sûre? C'est quand même très différent, la Suède.
Vous étiez déjà allé plusieurs fois en Suède ou jamais?
En vacances, ensemble, oui, on avait été au moins 3 fois, peut-être 4 fois quand même. Donc on a été pas mal de fois, mais bon, c'est des vacances, quoi, c'est pas du tout pareil.
Ouais.
Je lui dis, écoute, pourquoi pas, mais il faut quand même que tu t'attendes à ce que ce soit différent. C'est pas. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la Suède, c'est pas la France avec des meilleurs acquis sociaux, enfin, congés parental et tout. Enfin, c'est vraiment un pays avec sa propre culture. Et il faut prendre vraiment tout ça en considération, quoi. Et il m'a dit, oui, non, mais ça serait vraiment bien. Enfin, je le sens bien, quoi. J'ai envie d'essayer. Donc, Donc on est parti comme ça, presque un peu sur un coup de tête. On n'avait pas de boulot, rien quoi.
Ah oui, d'accord.
Pas de boulot, pas de logement. On a débarqué, on s'est mis en dispo tous les deux, on était fonctionnaires tous les deux. Enfin, on l'est toujours officiellement, mais bon. Puis on est parti quoi, au mois d'août. Quand on pensait que le coronavirus s'était calmé et que c'était quasiment derrière nous, ces deux mois d'été là où on était bien naïfs.
Et là, t'es toujours enceinte, toi?
Oui, c'est ça. Je suis enceinte de 5 mois, un truc comme ça. 4-5 mois. Je ne sais plus exactement. 5 mois, je crois.
Ouais, donc là, tu dois faire toutes les démarches pour trouver un gynéco, enfin pour tout le suivi de ta grossesse. Comment ça s'organise?
Ah oui, alors bon, en fait c'est pas du tout pareil. Hein. Ils sont à la cool. Quand c'est ton deuxième bébé, en général, tu fais rien avant le 6e mois. Et donc moi, je suis arrivée surstressée, pensant que j'étais hyper à la bourre. J'essaye d'appeler et tout. Puis j'ai une sage-femme qui me dit ah mais non, c'est parfait. On va pouvoir faire l'échographie du deuxième trimestre. C'est par là qu'on commence quand c'est une deuxième grossesse et que tout s'est bien déroulé à la première. Quoi?
Ok.
Je m'y connaissais pas trop dans le suivi de grossesse, mais en Suède, si t'es une stressée de la vie, la Suède, c'est pas fait pour toi. Hein, parce que c'est vraiment, t'as une seule échographie sur toute ta grossesse. Quand elle se passe bien, hein, j'entends.
Ouais, ouais.
Quand c'est pas pathologique, quand il y a aucune raison de s'inquiéter, tu fais une échographie. Les 6 premiers mois, tu vois quasiment pas la sage-femme. Et puis après, par contre, ça se resserre. Et à l'inverse de la France, sur la fin de la sage-femme, tu la vois une fois par semaine.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est vraiment très très différent quoi. Mais au début, dans les premiers mois, tu sais rien quoi. Tu peux payer toi-même une échographie si tu veux, mais c'est pas un truc pris en charge. Voilà. Tu peux aussi payer le test de la trisomie, etc. Mais c'est vraiment ça doit venir de ta poche et ça doit être ta volonté quoi.
Et donc là, tu te fais suivre dans le public. Est-ce que c'est public et privé aussi là-bas?
Ouais, c'est très compliqué parce qu'en fait, tout le système de santé a été privatisé en Suède depuis très longtemps maintenant. Il y a plein de centres différents, mais tout est plus ou moins privé, quoi. Donc, j'ai rejoint un cabinet de sage-femme qui me paraissait bien. Je suis allée lire les notes sur Internet, quoi. Et puis, j'ai rejoint ce cabinet-là. Et puis, on m'a assigné une sage-femme, entre guillemets. Il y a très peu de sages-femmes en libéral en Suède. La plupart du temps, elles sont 5-6 ensemble. Et donc, elle était super. On a eu une bonne connexion, une belle connexion, elle et moi. Je m'entendais vraiment bien avec elle. Et j'ai eu un très, très bon suivi qui était très light. Hein. J'ai dû faire 3 prises de sang sur toute la grossesse. Même pas. J'ai fait une seule prise de sang complète. Ils ne regardent pas la toxo. De temps en temps, ils regardent le sucre dans le sang et ils écoutent le cœur à chaque fois et puis c'est tout, quoi. J'ai su le sexe parce que j'ai demandé, mais sinon, ils te le disent pas. Si tu te demandes pas vraiment à savoir, ils te le disent pas. Et puis, tu sais rien. Ils estiment pas la taille, le poids, tout ça. Surprise totale, quoi. Donc, quand Ernest est né à quasiment 4,4 kg, bah, j'en avais aucune idée, quoi.
Ah oui, bah, faut peut-être mieux pas le savoir.
Eh ben, tu sais que c'est ce que je me suis dit après coup.
Ah oui.
Personne m'a parlé de macrosomie ou que sais-je. Enfin, j'avais aucune idée. Si. Je me suis dit, purée, il me paraît plus gros que Louise. Quand t'as déjà eu une autre expérience avec un bébé plus petit, je me suis dit, ah, quand même, j'ai l'impression que ça va être un grand bébé, quoi. J'étais grand, hein. Il faisait 54 cm et demi, je crois. Donc, vraiment un grand, gros bébé. Et du coup, vous savez que j'ai pas eu peur. Enfin, j'y pensais pas quand j'ai accouché parce que ben, je savais pas. Donc j'ai pas stressé pour ça.
Et donc là, t'as prévu un accouchement sans péridurale cette fois-ci?
Ouais. Et là, je me suis vraiment préparée. J'avais pas bien vécu la douleur la première fois. Je me suis dit cette fois-ci, j'ai envie de venir en étant préparée. Donc mais c'était le Covid. Donc il y avait plus aucune préparation physique en Suède. Toutes les préparations physiques étaient annulées, tout était par vidéo. Du coup, je me suis dit, quitte à prendre une préparation vidéo, autant chercher celle qui me convient le mieux, pas forcément une préparation suédoise, mais vraiment chercher quelque chose qui me parle. Du coup, j'ai suivi 2 préparations qui vont pas vraiment ensemble, en fait. J'en ai suivi une qui est plus très connue, parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, donc c'était la préparation de Quantic Mama, qui est une préparation... c'est pas vraiment une préparation dite scientifique, c'est vraiment plus, voilà, se connecter à toutes les femmes qui ont accouché avant soi. Je dirais, si je devais qualifier, mais je veux pas être péjorative parce qu'elle m'a fait beaucoup de bien cette préparation, je dirais que c'est une préparation plus un peu olé olé.
Un peu plus spirituelle.
Voilà, c'est ça, il y a un côté un peu spirituel. Et j'ai fait une autre préparation très terre à terre scientifique qui est la préparation Bonaparte.
D'accord.
Où elle, tout ce qu'elle dit, elle le base sur des méta-analyses, donc des études scientifiques de grande ampleur. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'autre préparation, qui est beaucoup plus voilà spirituelle. Et j'ai adoré les deux, honnêtement. J'ai pris, encore une fois, un peu comme ce que je te disais dans la parentalité, c'est que j'ai pris ce qui me parlait, ce qui me plaisait dans les deux. Celle de Bonaparte, j'ai vraiment adoré parce qu'elle prend en compte le partenaire du début jusqu'à la fin. Donc, on les a toutes regardées avec mon mari et on s'est préparé ensemble à cette gestion de la douleur parce que le partenaire joue un rôle prépondérant dans cette gestion de la douleur. Il apprend, en fait, à voir les signaux et comment soulager, du coup, cette douleur sur la femme. Donc, il savait exactement que faire, comment agir pour m'aider parce qu'il s'est senti vraiment très démuni la première fois pour Louise. Ça a été il a très mal vécu le fait de pas savoir comment m'aider, quoi. Et moi, je ne savais pas comment est-ce qu'il pouvait m'aider non plus.
Ah oui.
Tout ce que j'avais fait pour lui, c'était je m'en suis servi comme punching ball, quoi. Et là, on avait des petites astuces, des choses qui nous ont vraiment aidés. Et puis après, ça, je ne le savais pas, mais j'ai eu une sage-femme du tonnerre, quoi. Ça a été une coach sur les 2 heures. C'est même pas 2 heures, je crois. J'ai accouché en 1h40, un truc comme ça.
Hyper rapide.
Oh. Ouais.
Et donc là, t'es installée dans une baignoire ou dans une pièce particulière?
Alors, j'ai choisi une maternité où toutes les pièces sont des chambres, en fait. Des super grandes chambres. Ça ressemble à des chambres d'hôtel, en fait. Avec une super grande baignoire. Et donc, c'était super cosy. Il y avait des petites lumières, toutes les décorations de Noël. C'était magique. D'être dans cette pièce, t'oublies quasiment que tu vas accoucher, t'as envie de demander un chocolat chaud, te poser. Et en fait, j'arrive et donc j'ai eu 2 nanas pour moi du début jusqu'à la fin, quoi. La sage-femme et l'assistante, une sorte de puéricultrice, infirmière. Et elles m'ont coaché, elles ont vu, en fait, dans mon dossier. Alors, un truc qui est génial en Suède, c'est qu'on a un dossier médical qui nous suit. Donc, en fait, quand tu vas dans un nouvel endroit, que tu vas voir un médecin pour la première fois, il a accès à tout ton dossier médical, en fait. T'as pas besoin de répondre aux questions, il voit comment s'est déroulé ton accouchement, même si c'est pas par rapport à l'accouchement. Alors, il va pas forcément lire, ça l'intéresse pas. Mais, tu vois, quand je suis arrivée, elle savait déjà tout. Elle savait comment j'avais accouché pour la première fois, que ça avait été rapide.
D'accord.
Et j'avais fait un projet d'accouchement parce qu'elle le demande dans cette maternité. Avec des réponses à des questions que ces sages-femmes-là posent. Donc, elle savait que j'avais très mal vécu certains actes qui avaient été faits au premier accouchement sans que je sois prévenue. Donc, j'avais mis ça en gras, voilà, que je souhaitais être prévenue de tout. Et en fait, elle m'a pris au mot au point où elle m'a posé la question pour le moindre coton, quoi. C'était incroyable. Alors, je me suis sentie bichonnée, respectée, au-delà de mes attentes. C'était fou, enfin, c'était super, quoi. Je suis encore émue quand j'y pense. C'était vraiment une super expérience. Après, ça a été très très court, très intense, mais c'était super. Donc j'ai tenté la baignoire, mais j'ai pas aimé. Je suis sortie très vite. Et finalement, j'ai accouché à 4 pattes, sans péridurale, mais j'ai pris le gaz hilarant pour les contractions. Alors, en Suède, je sais qu'en France, on peut le prendre pour les pousser, mais en Suède, on le prend pas, ils le proposent pas, ils demandent d'arrêter, en fait, pour les pousser.
D'accord.
Et c'était pas propre à ma maternité, c'est comme ça, en fait. C'est pas quelque chose qu'on propose. Donc, j'ai eu le gaz sur les poussées qui ont été les plus intenses. Ça m'a fait beaucoup de bien. Au début, j'étais dans les choux. Et puis, petit à petit, ça m'a quand même calmée, entre guillemets. Ça m'a aidé à gérer les contractions les plus fortes, quoi. Et puis après, les poussées, de toute façon, elles étaient, ça paraît un peu maso ce que je veux dire, mais elles m'ont fait du bien en fait, parce que je savais que le bébé sortait, donc c'était pas du tout douloureux, j'ai pas du tout vécu comme douloureux. En fait, de toute façon, j'ai rien vécu comme douloureux dans cette expérience-là, parce que j'étais préparée mentalement et que j'avais une vision totalement différente de ce que j'étais en train de vivre. Je savais ce qui était en train de se passer dans mon corps. Je savais, enfin, c'est là où la préparation quantique maman, elle m'a fait du bien, parce qu'il y a ce côté, c'est pas vraiment le côté spirituel, mais ce côté, voilà, des mantras.
Oui.
Une contraction, ça dure au maximum une minute. Après, tu vas avoir une pause. Pendant les pauses, tu souffles sur ton col, des trucs très, très imagés. Je suis pas du tout sûre qu'il y ait des preuves scientifiques que ça marche, mais rien que moi, le fait de me le dire, psychologiquement, ça m'a vraiment soutenue, quoi. Ça m'a aidée, ça m'a fait du bien. Plus tout le coaching mental de la sage-femme, plus Jonathan. Enfin, j'avais une team, en fait.
Ouais.
Je me suis sentie super forte. Je me suis jamais sentie aussi forte de toute ma vie que durant cet accouchement, quoi.
Donc là, tu as déjà vu la première différence entre la prise en charge en France et celle en Suède, en tout cas pour ces deux accouchements-là.
Oui, même si c'est difficile de comparer. Enfin, on peut pas en tirer des conclusions comme ça, parce qu'en France, j'ai pas eu de chance. Les bluées, c'est une maternité qui est connue normalement pour être physio et avoir le temps pour les femmes. J'ai accouché au mois d'août, où il y a moins de sages-femmes, et j'ai accouché un soir. Oui, toutes les femmes ont décidé d'accoucher en même temps que moi. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que ces sages-femmes-là, elles sont top. Juste, elles manquaient de moyens ce soir-là. Peut-être que ça aurait pu être... Enfin, j'ai beaucoup d'amis qui ont accouché oubliés, qui n'ont pas eu la même expérience que moi, qui ont vraiment eu une sage-femme qui était là pour elles, qui ont pu coacher davantage... Je pense que j'ai pas eu beaucoup de chance pour Louise. Et qu'en Suède, on n'a pas toujours une sage-femme par femme. Mais que ce soir-là, j'étais toute seule. Donc forcément, j'avais même deux personnes pour moi, quoi. Je pense que peut-être qu'en France, si j'avais accouché en France au Bluet, je m'étais inscrite au Bluet, ça aurait peut-être été très différent. J'aurais peut-être eu une meilleure prise en charge à ce moment-là, quoi.
Ouais.
Mais je pense quand même que au niveau de la prise en charge de l'accouchement, globalement, on a un meilleur suivi quand même en Suède. Enfin, il y a quand même plus de sages-femmes par femme, a priori. Mais c'est régional en Suède. Donc, je peux parler pour Stockholm, où il y a une très bonne prise en charge. Mais je sais que dans d'autres régions, c'est pas forcément aussi idéal, quoi. En tout cas, là où j'ai été, c'était formidable. Et
ouais.
J'y retournerai sans hésiter, quoi.
Et alors, ta rencontre cette fois-ci avec ton fils?
Eh ben, comme Louise, il m'a fallu du temps pour construire la relation. C'est pas pareil pour mon mari. Mon mari, donc, il arrêtait pas de regarder Ernest en me disant « Oh, il est si beau, oh, je l'aime, je l'aime ». Et moi, j'étais pas dans les choux cette fois-ci, parce que c'était un deuxième bébé, donc j'avais plus réalisé. Je ressentais pas l'amour immédiat. J'étais très heureuse que ce soit fini. C'était intense, il était là, il était chaud, doux, c'était agréable. Mais c'était pas l'amour fou. Il y avait de l'amour. Mais c'était pas encore... Aujourd'hui, j'ai de l'amour fou pour mon fils. Là, quand il a un an, je me vois plus vivre sans lui. C'est un amour qui connaît pas de limites. C'est « je donnerai ma vie pour mes enfants ». Mais c'était pas instantané. Ça a vraiment pris du temps aussi, quoi, pour Ernest. Je pense que ça a pris moins de temps que pour Louise. Mais ça a quand même pris du temps.
Il y a un suivi particulier après l'accouchement ?
Oui, un suivi particulier, oui. Donc c'est un suivi parent-enfant. Pendant le Covid, c'était juste maman-enfant principalement. Donc au début, j'ai été suivie donc par une sorte de puéricultrice. Au début, c'est quasiment toutes les semaines, puis ça s'espace toutes les deux semaines, trois semaines, tous les mois, puis tous les deux mois, trois mois. Enfin, ça, quand les enfants sont plus grands, c'est tous les ans. Mais dans les premiers mois, c'est très très souvent et c'est quasiment autant pour la maman que pour l'enfant, quoi. C'est comme ça qu'on dépiste le postpartum. Il y a un rendez-vous qui est fait pour ça, pour détecter les postpartums chez les jeunes mères. Mais il y en a aussi un maintenant pour détecter la dépression postpartum chez les pères. Mon mari y a été aussi. Parce que du coup, comme les pères sont plus impliqués, ben forcément, il y a aussi une augmentation des dépressions postpartum chez les pères. Et oui, il n'y échappe pas. Quand ils s'en occupent autant que les femmes, on trouve des taux quasiment équivalents.
D'accord. Et c'est des professionnels qui viennent à domicile ?
Alors, tout premier rendez-vous, oui, mais après, non. Mais alors, il y a un truc qui est génial ici, en fait, c'est qu'ils prennent les rendez-vous pour toi. Donc, en fait, tu reçois un SMS et t'as la date et l'heure et tout. Et comme t'es en congé parental, tu peux venir n'importe quand au début. Si ça te convient pas, tu peux changer.
Génial.
Mais tous les rendez-vous... Mais d'ailleurs, ils continuent de nous prendre les rendez-vous. Genre là, ils nous ont pris le rendez-vous chez le dentiste pour Louise pour les 3 ans. Comme elle a pas voulu ouvrir la bouche, ils nous ont prévu un autre rendez-vous pendant 6 mois. Je sais que je vais avoir un rappel juste avant.
Excellent.
Les enfants, ils te prennent tous tes rendez-vous. C'est les professionnels qui prennent les rendez-vous pour toi et qui t'envoient les SMS après pour te dire, voilà, vous avez rendez-vous. Il y a juste à y aller.
Génial. Ça enlève une petite charge mentale. Ouais. Et toute l'organisation après, donc pour ce qui est la garde, l'école pour Louise, comment tu t'es organisée en Suède?
Alors, Louise, elle allait dans ce qu'on appelle la Förskola. La Förskola, en fait, c'est une structure qui regroupe crèche et maternelle. En fait, les enfants de preschool, on pourrait dire, c'est de 1 an à 6 ans, ils vont dans la même structure. Donc en fait, elle avait déjà commencé quand nous on s'est installés. Très vite, elle a eu une place très vite. Et du coup, pour elle, il n'y a pas vraiment eu de rupture. Elle y allait déjà 30 heures et elle a pu continuer à y aller une trentaine d'heures par semaine. La grosse différence, c'est que Jonathan, il travaillait pas. Donc on a été tous les deux à la maison durant cette période, quoi. C'était une période extrêmement privilégiée. On était deux parents à la maison. Ben, on a dû serrer la ceinture parce que on a vécu sur mon congé parental et sur des économies et sur du soutien de la famille. Mais donc, on a été là. Ben, mon postpartum a été vécu de manière très différente puisque Jonathan, il était là. Pour Louise, il était là 1 mois. Ben, pour là, il a été là. Ouais. Ben, depuis la naissance dernière jusqu'à aujourd'hui, il a été à la maison, quoi. Il a été étudiant pendant un temps. Donc, il a pris des cours de suédois. Et pendant ces moments-là, il était moins présent.
D'accord. Toi, tu parles suédois.
Moi, je suis bilingue, ouais. Mais lui, il voulait vraiment s'intégrer vite et apprendre. Donc, il a pris du suédois intensif. Donc, il y a eu des mois où il était vraiment focus sur le suédois. Donc, il était moins disponible. Mais là, il a été quand même très présent, quoi. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'être en Suède ou en France. Ça a été, c'est un rapport avec ce choix de prendre cette année un peu sabbatique.
Oui. Et l'école de Louis, c'est une école bilingue ou c'est 100% suédois?
C'est 100% suédois. On a fait le choix de la mettre dans une école publique suédoise pour l'immerger dans le suédois. Donc, elle parle suédois dans sa structure et nous, on parle que français à la maison. Ça fait un bon équilibre. Elle parle vraiment bien les deux langues, quoi. Elle est vraiment bilingue maintenant.
Maintenant que tu as un petit peu de recul sur la vie en Suède, cette fameuse éducation scandinave que tu peux voir du coup de l'intérieur du pays cette fois-ci. Qu'est-ce que tu en penses? Comment toi tu vois les choses?
J'en pense que c'est très différent. La manière dont on élève les enfants en Suède et en France, c'est très différent. Si on prend en tout cas l'éducation, on va dire traditionnelle française. Parce que la France, c'est un grand pays, hein, c'est quand même 70 millions d'habitants quasiment. Donc, il y a quand même tout un panel d'éducation. Mais si je compare avec une éducation, on va dire, assez traditionnelle, je trouve que ça change beaucoup en France. Je trouve qu'on donne de plus en plus de place à l'enfant. Il a le droit d'exister comme personne à part entière, ce qui était quand même beaucoup moins le cas quand on était petit. En tout cas, c'est vrai que j'ai tendance à comparer pas mal avec mon mari parce que c'est avec lui que j'ai le plus approfondi ce sujet. Lui, il a donc vécu une éducation plus traditionnelle. Et quand je vois comment les parents élèvent leurs enfants ici, ça n'a juste rien à voir avec cette éducation-là, quoi. On considère l'enfant comme une personne à part entière très tôt. On l'encourage vraiment à avoir un esprit critique aussi très tôt, à débattre, à donner son opinion. Et du coup, puisqu'on lui demande de donner son opinion, on doit aussi le prendre en compte. Donc, c'est-à-dire que parfois, il y a des désaccords entre enfants et adultes. Ça se ressent beaucoup maintenant que je travaille dans les structures préélémentaires où je travaille. Tout le programme de ces structures préélémentaires, c'est pas du tout lire, écrire, compter, tout ça. C'est non, le socle principal, enfin vraiment, ce qu'ils veulent inculquer en priorité, c'est l'esprit démocratique, que l'enfant forge un esprit critique et qu'il soit citoyen à part entière, etc., quoi. Donc c'est vraiment très très différent du programme français. Et je trouve que ça se ressent assez dans toute l'éducation ici. l'enfant a vraiment une grande place, quoi. Il n'y a pas de différence entre l'enfant et l'adulte dans la considération qu'on en fait. Donc, c'est hors de question de taper un enfant, en fait. Parce qu'on ne tape personne, quoi. On ne tape pas ni une femme, ni un homme, ni un enfant, ni un adulte. Donc, c'est juste impensable pour eux de lever la main sur un enfant. Il y a vraiment une grande écoute, beaucoup de patience. Je ne sais même pas comment les Suédois font pour être aussi patients, parce que moi, je ne suis pas aussi patiente. Je pense que mon mari et moi, on est quand même français, malgré tout, tu vois. Donc, je veux dire, ils crient vraiment peu, quoi. Nous, on crie, hein. Enfin, je veux dire, il y a des moments où j'arrive pas à faire autrement, quoi. Et ils ont une patience à toute épreuve. C'est assez dingue. Je n'ai pas encore percé le mystère du Suédois de souche uniquement, quoi. Qu'il n'y a pas de gène français. c'est assez dingue. Après, ben, du coup, forcément, en France, on va avoir la dérive de la violence dans cette éducation stricte. Et dans les familles suédoises, il va y avoir parfois la dérive du laxisme. On rencontre parfois des familles qui n'arrivent pas du tout à mettre un cadre. Mais il ne faut pas croire non plus que l'éducation scandinave, enfin, que les enfants font tout ce qu'ils veulent non plus, quoi. C'est un mythe, ça. Enfin, il y a beaucoup de mythes, hein, autour de la Suède. Le mythe principal, je dirais que c'est pas vraiment l'éducation, parce que les enfants ont quand même beaucoup de liberté ici. C'est vrai. Beaucoup de liberté. Parfois, c'est même un peu trop pour moi, quoi. C'est, va, mon enfant, mais grimpe tout en haut de l'immeuble. On va voir si tu y arrives. Peut-être que tu vas tomber et te casser les membres, mais vas-y, vas-y. Hein, j'extrapole presque, mais presque pas, en fait. Les parents vraiment un gros lâcher prise et ils vont dire oui pour certaines choses qui peuvent choquer, je pense, en France. Oui, le mythe, c'est que la Suède serait un pays du maternage proximal. C'est cette idée qu'il faut absolument faire du cododo, il faut absolument allaiter jusqu'au sevrage naturel, il faut absolument uniquement porter son enfant et jamais utiliser de poussette. Il faut, tu vois, tout ce côté un peu nature, je sais pas comment dire, il faut pas utiliser d'objets de puériculture, enfin c'est retour aux sources, tu vas faire la DME, faut faire absolument la DME, faut pas donner de petits pots, enfin. Et en fait, la Suède, c'est pas du tout ça, quoi. Certes, les femmes, elles allaitent, mais la majorité des femmes arrêtent d'allaiter à 1 an et n'ont aucun complexe avec le fait d'arrêter à 1 an. La plupart des familles ont un lit à barreaux. Alors, c'est vrai que quand tu commences à discuter avec les parents, tu te rends compte qu'en fait, il y en a beaucoup quand même qui dorment dans le lit. Mais c'est pas quelque chose de... C'est pas la terre du cododo. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre... Ils ont un lit à barreaux, l'enfant commence ses nuits, mais très souvent, il finit dans leur lit. Mais ils vont pas avoir de mal à passer leur enfant dans la chambre au bout d'un moment. Il y a des parents qui font la DME, mais ils ont aucun mal à mixer avec des pots. En fait, ce n'est pas possible d'être extrême en Suède, puisque le Suédois, par définition, il n'aime pas les extrêmes. Il est très mal à l'aise avec les extrêmes. Il est toujours dans le juste milieu. Ce qui peut presque être un peu effrayant avec un Suédois, c'est qu'il n'exprime pas beaucoup d'émotions par rapport aux habitants des pays latins. Donc c'est quelqu'un d'assez neutre et qui va rarement, ouais, justement, vers les extrêmes, sauf quand il est bourré, quoi. Et les Suédois, quand ils boivent, justement, en général, ils boivent à outrance, ouais, quoi.
C'est leur extrême à eux.
C'est ce qui casse l'image du Suédois, ouais. Mais pour le reste, du coup, c'est pas... ça peut pas convenir aux Suédois, ça. Ça, c'est vraiment une idée reçue. C'est pas une terre du maternage proximal. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, c'est-à-dire que la plupart des femmes allaitent, c'est vrai, il y a un taux d'allaitement qui est très élevé, mais il y a très très peu de femmes qui allaitent jusqu'au sevrage naturel. Les femmes retournent travailler. Tu vois, elles prennent un an de congé, certes, quasiment toutes, mais elles retournent toutes bosser après, quoi. Il y a très peu de mamans qui restent au foyer.
Et les papas prennent leur congé
Alors ça, c'est pas un mythe. Les hommes prennent minimum 3 mois, puisqu'ils les perdent ces 3 mois s'ils les prennent pas. C'est pas être transféré à la femme, mais ils prennent de plus en plus même la moitié du congé. Et je pense que ça fait vraiment du bien à la charge mentale, quoi. Je trouve, de ce que j'ai vu là, de cette année qu'on a vécu en Suède et les amis suédois qu'on s'est fait, c'est que le partage des tâches est quand même beaucoup plus équilibré, quoi. Ça n'a rien à voir. Quand je parle avec mes amies françaises et mes amies ici, c'est autre chose quand même, quoi. Les hommes sont beaucoup plus impliqués dans toutes les tâches, en fait. Pas juste ménagères, mais aussi dans l'éducation des enfants, quoi. Ils amènent les enfants aux rendez-vous médicaux, ils sont dans les magasins à faire les achats pour les vêtements, ils sont en train de prévoir les cadeaux de Noël. Enfin, c'est pas un truc qui repose uniquement sur la femme. Ça, c'est vrai, quoi. Je le vois, il y a une sacrée différence. Les hommes sont dehors. Moi, très souvent, je suis la seule femme au parc, quoi. Ils sont dehors à jouer avec les enfants. Ils se retrouvent entre pères à discuter autour d'un café, quoi.
Et au niveau du travail aussi, des horaires, c'est un petit peu plus adapté également pour tout ce qui est parentalité, des horaires de travail.
Alors, ouais, quand tu es en CDI, ton employeur ne peut pas te refuser un temps partiel quand tu as des enfants en bas âge. Donc, c'est juste pas possible de te le refuser. Donc, si tu veux basculer à 70%, il peut pas te dire non. Il peut pas te virer non plus pour cette condition-là. Donc, énormément de parents réduisent. Au moins de 100 à 90 ou 85, 80, 70. Et énormément de parents, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent pas tout le congé parental tout de suite. Ils vont peut-être prendre un an. Et les jours qui leur restent, ils vont les prendre peut-être un jour par semaine. Ou 30%, enfin le congé, tu peux complètement le fractionner. Tu peux prendre 30% par jour ou des jours par-ci, des jours par-là, jusqu'aux 8 ans de l'enfant.
Ah oui.
Donc, tous les jours, tu peux pas les prendre jusqu'aux 8 ans de l'enfant. C'est par palier. Tu perds des jours aux 4 ans de l'enfant, puis tu perds encore des jours aux 8 ans de l'enfant. Mais tu as des jours que tu peux garder jusqu'aux 8 ans de l'enfant, ouais. On a quand même beaucoup de jours, hein. C'est 480 jours, je crois.
Ah oui, rien à voir.
Ah non, c'est énorme. Et ça, c'est super. Ça fait qu'il y a un... Vu que c'est institué, vu que c'est normal, il n'y a pas du tout ce côté du présentéisme comme on a en France. C'est tout à fait normal, en fait, de partir pour t'occuper de ta famille. D'ailleurs, en fait, c'est même l'inverse. Mais pourquoi tu rentres pas chez toi? T'as des enfants en bas âge. Pourquoi tu restes tard? T'es pas efficace ou quoi? C'est vrai que tu peux te retrouver avec ce travers que c'est mal vu de pas être auprès de tes enfants. Il peut y avoir ce côté-là. C'est-à-dire que quand tu te sens pas bien ou que c'est difficile pour toi de t'occuper des enfants, il y a des Suédois qui vont pas comprendre.
Ah oui.
Ils ont l'impression qu'ils ont tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien.
Et alors, vous, ça fait combien de temps que vous êtes installée en Suède?
1 an et 4 mois.
Ouais. Et alors, ton recul sur toi, ta vie de famille par rapport à la France?
Ah, et moi, je retourne plus en France.
Ouais.
Non, il y a des choses qui sont chouettes en France. Mais pour la vie de famille, après, c'est mon avis, hein, peut-être que tous les expatriés qui sont ici en Suède ne seront pas d'accord en venant de France. Mais moi, on a trouvé une qualité de vie inégalable, quoi. Bah, déjà, rien que le fait que maintenant je suis en CDI, je peux rester à 70% autant que je veux et c'est pas mal vu. On va pas me demander de travailler plus. Je vais pas faire plus que 70% dans la réalité, mais c'est super, quoi. Et le jour où mon mari va commencer à bosser, je sais que lui, ce sera pareil. On aura toujours du temps pour nos enfants. On apprécie être avec nos enfants. Donc, on est super heureux d'avoir cette possibilité-là. Et j'ai même envie de dire que le temps qu'on passe avec nos enfants, il est vraiment de qualité, du coup. C'est pas le temps quand on est crevé, etc., quoi. On a vraiment cette possibilité d'être ensemble dans les moments qu'on a choisi. Par exemple, en ce moment, on est ensemble tous les vendredis, tous les quatre. Parce que je prends mes vendredis et c'est super, quoi. Bon, ça, encore une fois, c'est parce que mon mari travaille pas actuellement. Donc, il y a d'autres défis. Faut pas non plus que je rentre tout super rose parce que, on vit avec un seul salaire. Mais on est quand même très heureux comme ça. Enfin, on a l'impression d'y gagner. On a vraiment tout pour la famille ici. Cette structure d'accueil de Louise qui est tellement bienveillante, avec des petits effectifs, 4-5 enfants par adulte, la possibilité d'avoir un suivi quasiment, pas individuel, mais vraiment au plus proche des besoins de l'enfant. Donc, pour le coup, les adultes ont beaucoup plus de patience, on prennent plus le temps, ont les moyens finalement de bien s'occuper des enfants. Cette souplesse au niveau du boulot. Et puis, on a tous ces jours qui sont payés, quoi. T'es payé à 80% de ton salaire sur le congé parental.
Oui.
Donc c'est énorme. C'est super. On a aussi 120 jours d'enfants malades payés à 80% du salaire aussi, quoi. Donc, bon, il y a un montant maximum, mais moi, je ne l'ai pas atteint. Mais je veux dire, pour les salaires très élevés, ça ne fait pas 80%, tu vois. À partir d'un certain montant, c'est moins.
C'est plafonné.
Y a un, voilà, exactement. Bah, ça me paraît un peu logique, hein, quand même. On n'était pas sûrs, hein, quand on est venu. On était venu pour une année sabbatique au début. Et on a quand même eu... Ouais, on s'était pas dit qu'on allait s'installer ici pour toujours. Et il y a eu un choc, hein, quand même. Il y a eu un moment où on s'est beaucoup questionné. Mon mari a failli accepter un poste à Toulouse qu'il a eu, qu'il a finalement décliné et passé un peu ce choc. L'hiver qui est quand même rude, les amis qui sont loin. Pour mon mari, la mentalité qui est très, très différente. Celui, il est français, hein, franco-français, donc rien à voir. On s'est fait des amis ici, ça a beaucoup aidé. On a vu Louise tellement bien s'intégrer, aimer aller à l'école. On est plus proche de ma famille, mes parents sont ici.
Ah oui, d'accord.
Et je crois que ça y est, on a réussi à surmonter le fait qu'il fait nuit à 15h, quoi. On a tellement de choses qui nous parlent et qui nous font du bien par ailleurs que c'était le meilleur choix pour nous. Moi, quand je pense à la France, je m'y vois passer la retraite, quoi, pas avant. Après... Qui sait, hein. Franchement, si on m'avait demandé il y a 5 ans si je viendrais m'installer en Suède, j'aurais dit, mais non, tu plaisantes, pas du tout. Donc, tu vois, je ne vais pas non plus me prononcer de façon sûre et certaine, mais c'est vrai qu'en étant ici aussi, j'envisage plus facilement un troisième enfant, ça c'est sûr.
Peut-être que tu vas avoir ta ribambelle de 10 ou 12 enfants, qui sait.
Ça, c'était une blague.
On verra.
Il y a l'âge, il y a plein de choses. Ouais. Non. Ce qui est vrai pour tous, c'est qu'on ne peut pas se dédoubler en tant que parent, quoi. Donc, ce qu'on se disait avec mon mari, c'est qu'on ne veut pas non plus que les enfants qu'on a déjà, qui sont là, qui existent, soient malheureux. On a envie de les prendre en compte aussi dans l'équation. Et ça a quand même été difficile pour Louise de partager ses parents, de passer de ce rôle d'enfant unique à devoir tout partager. C'est encore difficile pour elle.
Ah oui.
Donc, il faut prendre ça en considération aussi, quoi.
Et qu'est-ce que vous avez le temps de faire avec vos enfants que vous n'avez pas le temps de faire à Paris ?
Là, je dirais que si on avait la même configuration en France, on aurait le temps aussi. Mais c'est vrai que là, c'est surtout parce que j'ai cette possibilité de travailler à 70% et qu'on ne va pas me demander de changer, qu'on a plus le temps. C'est-à-dire que moi, quand je rentre, il est 16h. Donc, il me reste tout l'après-midi, quoi. Bon, en tant que professeur des écoles en France, j'aurais eu des horaires quand même relativement souples. Mais mon mari, quand il bossait, il n'était pas à la maison avant 19h30, 20h, quoi. Il n'avait pas le temps de voir Louise en semaine. Ici, je sais que même quand il reprendra un boulot, il finira jamais à 19h30. C'est impensable ici quand on a des enfants en bas âge. C'est vraiment une toute autre organisation. Le fait d'avoir aussi le vendredi, c'est ça qui fait que j'ai le temps de faire plein de choses avec eux. C'est un choix. Du coup, Louise... c'est aussi plus simple. En fait, l'école n'est pas obligatoire de 1 à 6 ans. Donc, on décide nous-mêmes des horaires. Ça fait qu'on a fait le choix de ne pas la mettre le vendredi. Ben, c'est comme ça, quoi. Elle rate le vendredi, mais elle est avec nous à la place. En fait, il y a vraiment de la flexibilité et de la souplesse autour de tout ça. Ce qui permet d'avoir plus de temps. Après, il y a aussi que les salaires sont plus élevés ici, globalement. Donc, même quand on travaille moins, ben... Voilà, en étant à 70%, j'ai le revenu équivalent de ce que je gagnais à temps plein en France, quoi.
Ouais.
Donc, il y a aussi ça. Il y a un niveau de vie qui est différent ici.
Donc, c'est beaucoup moins de pression au quotidien, moins la course.
Ah oui, carrément. Ah oui, oui, c'est... Après, il faudrait presque que je te fasse un update une fois qu'on travaillera tous les deux.
Bon, ce sera dans tous les cas plus cool qu'à Paris.
Ah oui, avec, de toute façon, il n'aurait jamais pu prendre un temps partiel en France. C'est inenvisageable. Dans son boulot, il est ingénieur. Il n'est jamais de la vie. Quand il partait à 17h30, parfois 18h, parce qu'il avait fait ses 40 heures, même plus, ses collègues, etc., tu prends ton après-midi. Alors qu'il savait que j'étais à la maison, que c'était difficile pour moi, j'avais un bébé de 2 mois, quoi. Aucune... compassion, pas de considération pour le temps en famille. En tout cas, dans son boulot, c'était la famille, c'est pas quelque chose comme en premier, quoi. Alors qu'ici, c'est vraiment le boulot, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre avant la famille, c'est la famille avant tout. Ma directrice, elle me le dit tout le temps, quoi. C'est un enfant qui est malade, mais rentre, va t'occuper de ton enfant. T'es malade, mais reste chez toi, il faut que tu guérisses. Je vais pas revenir tant que t'es malade. Je suis venue une fois en étant encore malade. Elle m'a renvoyée chez moi. Aïe. Tu fais quoi? Tu n'es pas venue en étant malade? En France, j'étais habituée à devoir venir. Il y a des problèmes de remplacement à l'école. Propre au fait que j'étais professeure des écoles, quoi. Je suis venue un nombre incalculable de fois en ayant la gastro, la grippe, ce que tu veux, quoi. Mais là, on m'a bien fait comprendre que c'était pas une bonne initiative.
Mais c'est zéro culpabilité. Tu dois sentir super libre, en fait, dans ta parentalité.
Ah, ça, ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment pas que moi. Je pense que c'est vraiment... C'est propre à la vision de la famille et de la parentalité en Suède, quoi.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité?
Je pense que la maternité, ça a tout changé pour moi. J'ai l'impression que la Mélanie d'avant, c'est vraiment une autre personne, quoi. Mais c'est difficile à décrire, mais j'ai complètement changé. Je pense que je suis plus la même personne depuis que je suis maman. Le fait d'avoir ces enfants à charge, mais c'est pas le sens péjoratif, c'est vraiment... J'ai ces enfants-là et j'ai une mission, c'est de les élever, quoi. De les aider à s'épanouir, à grandir. C'est un rôle, une responsabilité que j'adore. Je m'y retrouve complètement. J'aime ça, j'aime trop être maman. Et quand je pense à ma vie d'avant, je me dis, il me manquait vraiment un truc. Et c'est vrai, je me le disais souvent, il me manque un truc. J'ai envie d'être mère. Et je dirais pas que ça... Parfois, je vois que certaines mamans, elles disent ça a donné du sens à leur vie. Je pense que il y avait quand même déjà du sens à ma vie. Mais ça a ajouté encore plus de sens. C'est sûr, ça a beaucoup changé mon quotidien. Je trouve ça génial d'avoir des enfants, quoi. Il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre. Même quand on a une journée difficile, ils sont là. Parfois, c'est compliqué parce que du coup, tu es obligé de te lever alors que tu voudrais rester au lit. Mais en même temps, c'est beau parce qu'ils sont là pour te remonter le moral avec leur naturel d'enfant. Et moi, ouais, je m'y retrouve complètement dans ce rôle de mère, quoi.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Oui.
C'est quoi pour toi être une maman suédoise?
Je me pose de plus en plus la question, parce qu'on me demande maintenant, mais pourquoi t'as choisi ce nom de compte? T'es pas vraiment une maman suédoise. Je dirais que c'est être une maman qui essaye d'être à l'écoute de son enfant, sans s'oublier. Ça, c'est sûr. Mes enfants, ils ont une grande place, mais j'ai besoin de prendre du temps pour moi. C'est être parent sans s'oublier.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Stockholm?
Il y en a plein, il y en a partout. Nous, on adore aller à Skansen. C'est une sorte de parc naturel des animaux qu'on trouve en Suède. C'est un peu comme un zoo, sauf que c'est vraiment des animaux uniquement scandinaves. Et il y a aussi toutes les reproductions des maisons de la Suède de toutes les époques, avec aussi des acteurs qui se baladent et qui jouent le rôle des personnages de leur époque. Il y a aussi des animaux de la ferme. On peut rentrer, caresser les animaux, les petits cochons. C'est un endroit qui est super sympa. Il y a aussi quelques manèges pour les enfants, de quoi manger. On peut faire des pique-niques. À Noël, il y a un marché de Noël. L'été, il y a la fête de Midsommar, qui est la grande fête en Suède où on chante et on danse autour d'un mât. C'est très touristique, en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment peut-être plus fait pour les touristes que pour les Suédois, mais les Suédois, ils vont beaucoup. Nous, on a pris la carte annuelle, carrément. Donc, on y va très souvent. C'est super sympa. Mais en fait, j'ai envie de te dire, tous les endroits sont kid-friendly à Stockholm, quoi. Si tu n'es pas kid-friendly, tu perds toute ta clientèle. Les gens ne viendront pas. Ils sont avec leurs enfants, donc... Il y a les lacs et la mer partout où on peut amener les enfants. On peut se baigner à plein d'endroits l'été. Il y a des petits glaciers. C'est trop chouette. On peut aller partout avec ses enfants. C'est ça qui est formidable avec Stockholm. Il n'y a pas d'endroit où on ne peut pas amener les enfants. Même le métro, il y a des ascenseurs pour que tu puisses descendre. C'est adapté à tous, en fait. Pas qu'aux enfants, même aux handicapés, personnes en fauteuil roulant. Enfin, c'est aussi ça qui fait qu'on aime autant la Suède, quoi. C'est tellement d'endroits qui sont accessibles, quoi. Les restaurants, tout.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ceux prévus en famille?
Alors, les projets, rien que pour moi, ça serait plus au niveau professionnel. Maintenant, j'aimerais bien me former peut-être pour devenir à terme directrice d'une de ces structures Forschkula, structure préélémentaire. Je me verrais bien faire ça, ou même en gérer plusieurs. Pourquoi pas créer ma propre structure. Ça, c'est un grand rêve. C'est quelque chose que je me vois bien faire plus tard. Projet d'avenir en famille, c'est une bonne question. Là, on est dans un appartement familial, on se verrait bien déménager dans quelque chose de plus grand. Bah justement, hein, au cas où il y a un troisième, bon, c'est sûr qu'il va y avoir un troisième. Hein. J'en ai parlé dans tout l'épisode, j'en ai été complètement obsédée. Quoi. Mais voilà, tu vois, il y a ce côté-là, rêver à plus grand, d'être totalement propriétaire. S'installer vraiment, parce que là on partage la propriété, c'est surtout un appartement de mes parents, mais avoir quelque chose vraiment à nous, notre nid douillet dans lequel on ne bougerait plus après. Je rêve de pouvoir m'installer et plus bouger, être vraiment chez nous et construire notre vie ici dans ce quartier qu'on adore. On ne se voit plus trop changer de quartier, on a tout ce qu'on aime ici. Et ouais, continuer à développer les amitiés qu'on a créées ici. Que nos enfants puissent grandir avec les enfants qui sont ici aussi. Peut-être avoir des amitiés comme ça d'une vie, ça serait génial. Moi, j'ai tellement déménagé, j'ai pas eu cette chance de connaître beaucoup d'amitiés comme ça longues. J'aimerais pouvoir offrir ça à mes enfants, quoi. Ça serait super.
Merci beaucoup, Mélanie.
De rien. C'était super de parler avec toi.
Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.